Cette semaine, à l'atelier, nous avons encore tenté de nouvelles choses. La scène se passe ce lundi dernier, dans le studio 42.
Alors, je vais commencer par mon
message. Si ouais.
Comment
tu comptes faire?
Donc, on a pas mal d'éléments qu'on va te faire écouter. On a pas mal préparé en amont. On a décidé de faire des choses un peu différentes, puisqu'on va parler d'interview et d'entretien. On s'est dit qu'on allait un peu déstructurer ou revisiter l'entretien studio et radio.
D'accord.
Donc ça veut dire que tout est enregistré, y compris maintenant. Donc on va, là je suis en train de faire mon essai de voix, mais en même temps on enregistre et puis peut-être qu'on va diffuser, peut-être pas.
D'accord.
Et d'ailleurs, si tu as envie de raconter une anecdote derrière, tu pourras, comme ça Simon pourra faire.
Ça se viendra, pour régler un peu les voix.
Voilà, pour régler un peu les voix.
Ouais. Alors je fais mon essai de voix en répondant la chose suivante. Beuve-Méry, le fondateur du Monde.
Hubert
Beuve-Méry disait « Le journalisme, c'est le contact et la distance. » Mais il voulait plutôt s'adresser là au pouvoir, quoi. Mais on pourrait parler du contact et la distance aussi avec ce flux permanent de l'actualité.
L'atelier des médias, Ziane Malouf.
Mon interlocuteur du jour s'appelle Nicolas Truong. Il vient de mettre en scène et de créer une pièce de théâtre qui a pour titre et pour sujet l'interview. Un thème qui ne pouvait échapper à une émission spécialisée dans les médias et le journalisme.
En fait, vous venez nous voir, mais nous sommes des anti-intervieweurs. Notre plaisir, justement, c'est de ne pas faire d'interview.
Alors Nicolas, je ne l'ai pas encore dit, vous êtes metteur en scène de la pièce de théâtre qui nous réunit, l'interview, mais également journaliste au Monde, où vous dirigez les pages idées et débats. Une double casquette parfaitement atypique.
Je suis journaliste d'idées et metteur en scène aussi de pensées ou d'idées. C'est-à-dire que je me suis dit, en arpentant la vie des idées depuis maintenant 20 ans, 25 ans, et plus récemment pour Le Monde, qu'il y avait une théâtralité en fait dans la pensée, qu'il y avait en fait une mise en scène dans les idées. Et au fond, on pourrait dire qu'un journal, mais c'est valable évidemment pour une émission, la conception d'une émission, on parle d'un conducteur ou d'une conduite, on parle d'un chemin de fer évidemment pour le journal, c'est une mise en scène. Cette actualité dont on parlait tout à l'heure, elle est mise en scène. Mais sinon, j'ai trouvé que ce qui m'a intéressé moi dans le théâtre, c'est de mettre en scène précisément des choses qui ne sont pas d'ordinaire mises en scène. Le premier spectacle, c'était la philosophie, la pensée critique contemporaine, des auteurs aussi différents que Walter de Benjamin, George Orwell ou des gens contemporains comme Jacques Rancière ou Clément Rosset ou Guy Debord. Et là, effectivement, de mettre en scène quelque chose qui ressemble à une sorte de réflexion là pour le coup sur le journalisme, sur l'entretien, mais qu'on pouvait, bref, qu'il y avait une jubilation en fait à penser, à réfléchir, qu'on pouvait donner corps en fait à tout ça, parce que je pense que les idées, les pensées, donc aussi quelque part les articles ou les entretiens, sont des choses finalement très incarnées. Sont des choses qui passent par la vie des gens. Alors, il y a des interviews qui sont trois questions A, ou qui sont juste en insert au téléphone, où on pose une et deux questions sans aucune presque relance. Et bon, c'est intéressant, informatif, mais je dirais que dans un entretien lors duquel on se rencontre, on se parle, bon, c'est deux êtres, c'est deux mondes, et moi j'aime aborder l'entretien comme si on abordait finalement un pays qu'on ne connaît pas, aborder quelqu'un, un être, quel qu'il soit politique, artiste, anonyme, je ne sais quoi, comme un continent non encore découvert.
On va parler un peu du spectacle, donc du spectacle L'Interview. Cette œuvre étrange qui explore l'univers de l'interview se place immédiatement sous l'influence d'un film extraordinaire qui a été tourné en 1960. Ce film, c'est Chronique d'un été, un mot, et puis on va entendre ensuite un son lié à ce film.
Alors, Chronique d'un été, c'est un film qui a été réalisé par le sociologue Edgar Morin et le réalisateur ethnologue Jean Rouche, et qui consistait à aller dans la rue, notamment en compagnie d'une intervieweuse devenue célèbre depuis, Marceline Loridan, et de demander à des gens dans la rue s'ils étaient heureux, comment ils se débrouillaient avec la vie. Ce qui est très beau dans ce film, c'est que les personnes interrogées parlent deux secondes, deux minutes, parfois deux heures, parfois deux jours. On s'installe avec les personnes et quelque chose de la parole avant l'ère de la communication généralisée, advient avec une beauté, une authenticité, quelque chose de très fort, de très brut, comme ça, de très libre aussi. Et c'est vrai que ce film nous a inspirés parce qu'on est parti, nous aussi, d'une certaine façon, à la recherche de cette parole, non pas perdue, mais de cette parole un peu rare, celle qui fait qu'on tend l'oreille de temps en temps à la radio ou ailleurs, et qu'on se dit là, quelque chose se dit, quelqu'un dit quelque chose vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que ça parle tout le temps, mais qu'on n'entend rien.
Le film Chronique d'un été est sorti en 1961. En 1991, France Culture consacre une série de 25 émissions à ce film. Elles sont signées Jean-Pierre Pagliano et Claude Giovanetti. On y retrouvait les personnages du film, les intervieweurs, les interviewés, les techniciens ayant participé à ce documentaire. Le premier épisode était avec Jean Rouch, le co-réalisateur et co-auteur avec Edgar Morin.
Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité.
Il me dit, je dis, mais moi je ne connais pas le sujet, il me dit, mais est-ce que tu serais prêt, on ferait une enquête cinématographique, il serait intéressant de la faire maintenant. On a commencé le film, le point de départ était simplement, comment vis-tu ? Donc, de commencer comme une enquête sociologique. Et à ce moment-là, comme il connaissait Anatole Dauman, il est allé voir Anatole qui a dit « Bon, je marche ». Et on a mis au point tout un système d'enquête.
Plaît, êtes-vous heureux ? Je vous en prie. Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? S'il vous plaît, monsieur. Êtes-vous heureux ?
Quoi ?
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît.
Maintenant, je fatigue déjà beaucoup, alors là...
Est-ce que vous êtes heureux, monsieur ?
Oh, ne me parlez pas tout ça. Hein.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux ?
On a tout de suite mis dans le coup Marceline Loridan, qui était une de ses vieilles camarades et qui était l'une des plus jeunes des portées de France, qui était donc quelqu'un de dramatique.
Franchement, vous n'êtes pas intimidé ? Tout de suite ?
Non, tout de suite, là, non.
Bon, alors, vous n'êtes pas intimidé maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, il est toujours temps de couper. Oui. Donc vous n'allez pas être intimidé.
Non, mais je suis moi maintenant tout à l'heure parce que j'ai pas été attaqué de front, je crois.
C'est ce brigand, là.
Oui, oui.
Bon, alors, vas-y, Morin, attaque.
Bon, j'attaque quand même, écoute. Tu ne sais pas les questions qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouch. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu ? Comment vis-tu ?
C'était donc un extrait d'une émission de France Culture consacrée à Chronique d'un été, une émission de 1991 où on entend donc Jean Rouch qui parle de ce film et où on entend aussi beaucoup d'extraits qui donnent un peu l'atmosphère, les accents aussi de cette œuvre.
Oui, c'est assez émouvant d'écouter en fait Jean Rouch là parler parce qu'évidemment ce film lui doit beaucoup et je trouve en écoutant ce film qu'il y a je le savais mais pas à ce point une continuité aussi avec Raymond Depardon que nous avons interrogé dans la pièce parce que eh bien Jean Rouch s'est beaucoup intéressé à ces terrains africain et quand Edgar Morin lui demande de filmer finalement sa tribu qu'il connaît mal, les Parisiens, c'est un peu ce qu'a fait Raymond Depardon avec
les paysans.
Avec les paysans, ça c'est une tribu qu'il connaît pas trop mal puisqu'il vient de ce monde-là, en effet. Mais quand il a fait son film Journal de France ou Les Habitants, c'est-à-dire qu'en fait finalement Raymond Depardon s'est aperçu qu'il connaissait finalement mieux, le désert africain, qu'il connaissait mieux finalement l'ailleurs que l'ici. Et donc il a voulu, notamment après les attentats du 13 novembre, eh bien un peu interroger cette France qu'il avait déjà photographiée, mais la réinterroger à nouveau, la faire parler. Et il y a une démarche un peu similaire. D'ailleurs, Raymond Depardon le dit, ils ont, avec Claudine Nougaret, qui est la productrice, ingénieure du son et sa compagne, voulu d'une certaine façon reprendre cette question. Qu'est-ce que c'est ? Comment vis-tu ? Comment tu te débrouilles avec la vie aujourd'hui ? C'est vrai que d'une certaine façon, le spectacle part de cette question, suit cette question en fait, des années 60 à aujourd'hui.
Au tout début du projet, on s'imaginait, nous-mêmes, aller dans la rue, à la boulangerie, n'importe où, et aller interroger les gens et leur demander « Êtes-vous heureux ?» Et on s'est dit « Non, êtes-vous heureux, c'est pas possible, on peut pas poser cette question-là aujourd'hui, c'est trop naïf. » Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question. Mais on n'arrivait pas vraiment à trouver, quand même.
Pour moi, la question aujourd'hui, ce serait pas « Comment vis-tu ?» Pour moi, la question, ce serait « Qu'est-ce que vous avez en commun et avec qui ?» Qu'est-ce que vous vous sentez en commun avec les autres? Avec qui avez-vous des choses en commun? Est-ce que... comment vivez-vous et est-ce que parfois vous pouvez dire nous?
Quel est votre nous?
Quel est votre nous?
Quel est votre nous?
Ce serait la question.
Quel est votre nous?
Quel est votre nous? Ce serait la question d'aujourd'hui, voilà.
Puis après, on se disait, non, mais en fait, à la boulangerie aussi, bon, ça va être des paroles très rapides, ça va pas forcément être très intéressant tout de suite, ou il va falloir vraiment, on aura de toute façon pas le temps. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'on aille plutôt voir des gens qu'on connaît, qui seraient susceptibles de faire des réponses, enfin, de nous accorder du temps pour faire quelque chose qui serait suffisamment intéressant pour construire un spectacle avec des gens qu'on connaissait, pas du tout des journalistes ou quoi. Et c'est vrai qu'après, en se posant ces questions-là, à un moment donné, tout naturellement, presque, la question est venue de se dire, mais en fait, allons demander aux intervieweurs comment ils font, quoi. Et peut-être que grâce à ça, on va aussi pouvoir trouver quelle est la question. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se disait vraiment, ouais, on va y aller, quoi. On va aller dans la rue et puis on va aller demander aux gens.
C'était la voix de Judith Henry, donc l'actrice principale, et un petit peu, ou même beaucoup, je sais pas, co-auteur avec l'autre acteur Nicolas Bouchaud de ce spectacle.
Alors oui, ils sont tous les deux collaborateurs artistiques. C'est important parce que moi, j'ai absolument besoin de leur regard, de l'intelligence qu'ils ont du plateau, parce que ce sont des comédiens qui ont ce rare talent, je trouve, à réfléchir à ce qu'ils font, non seulement à jouer et à très bien jouer, mais à réfléchir aussi à ce qu'ils font, c'est-à-dire presque se regarder d'une certaine façon jouer. Et donc, ils ont un regard aussi... très important concernant la mise en scène. Alors, ce qu'on a, ce qui me semblait important là, c'était que, quand même, cette question, on est allé la poser. On est allé la poser non pas, pour le coup,
au
boulanger ou à la boulangère, mais on est allé la poser, alors on est allé demander, effectivement, à des journalistes comment ils faisaient pour poser des questions et comment ils faisaient en sorte qu'une parole un peu singulière advienne. Mais on est quand même allé poser cette question à Edgar Morin et Régis Debray. C'est-à-dire qu'on a rencontré Edgar Morin et Régis Debray, et ils nous ont parlé de ce film, et ils nous ont parlé précisément de la question qu'il y avait dans ce film, et quelle serait la question aujourd'hui. Et ce dialogue que vous avez entendu...
Donc les extraits du spectacle.
Voilà, entre Judith Henry et Nicolas Bouchaud, c'est Edgar Morin et Régis Debray aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on leur pose, en l'occurrence, je leur pose la question, mais ça serait quoi la question aujourd'hui? Et ça serait celle-ci. Quel est votre nous? Est-ce que vous avez encore des choses en commun? Puisque effectivement, la question du commun dans les années 60, c'est pas que je dirais pas qu'elle allait de soi, puisqu'il y avait des grandes luttes concernant l'idéologie politique.
Des idéaux.
Voilà. Mais il y avait des lignes de fuite, comme dit Régis Debray dans le spectacle. Il y avait des espoirs, des espérances. Or, aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus ténu. Et peut-être que la question, c'est la question du commun aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a encore en commun les uns et les autres? Et donc, en effet, avec Judith et Nicolas, nous sommes allés, nous avons voulu montrer une enquête. Et c'est ce processus un peu actif, en fait, qu'on veut montrer dans le spectacle. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que poser une question? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le commun, qu'est-ce que c'est que le nous, comment on fait parler. Et moi, ce qui m'a plu, c'était de mettre Nicolas Bouchaud et Judith Henry dans une situation d'enquêteurs, comme des artistes qui arrivent sur le plateau, d'ailleurs au début à nu, presque comme ça, comme des comédiens qui, précisément, se demandent ce qu'ils vont faire, parce que le théâtre, c'est assez lié à l'entretien, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même d'un dialogue toujours tourné vers un public. Et donc, il y a une sorte d'analogie entre la situation théâtrale et la situation d'entretien que Judith et Nicolas, en fond, explorent.
On a pensé assez vite que ça servait à rien, parce que c'est
trop compliqué, c'est trop vaste de faire une compilation des meilleures interviews du monde ou des interviews les plus drôles du monde ou des interviews les plus obscènes du monde, je ne sais pas. Moi, ma hantise, c'était de faire un spectacle qui aurait été une critique des médias. Il n'y en a pas besoin, au sens où ça a déjà été beaucoup fait. C'était évident pour nous qu'il fallait qu'on se mouille. C'est-à-dire qu'il fallait que nous-mêmes, on fasse un petit travail d'enquêteur. Donc, il fallait que nous-mêmes, on interviewe les gens et que le matériau du spectacle, pour sa plus grande partie, c'est les trois quarts du spectacle, provienne d'une parole que nous avons été récoltée tous les trois et tous les quatre, même avec aussi Thomas Pontevie. Et tous les quatre, on est allé interviewer ces gens. Et c'était ce geste-là, pour moi, fondait encore plus profondément le spectacle et sa nécessité.
Cette parole donc recueillie par Nicolas Bouchaud qu'on entendait, Judith Henry également, Nicolas Truong, donc c'est ce qui va alimenter le spectacle. Parfois on sait qui est en train de parler, donc il y a de longues séquences, on va entendre Raymond Depardon et Claudine Nougaret qui racontent leur travail, leur manière de poser des questions, les interrogations qu'elles et ils ont sur leur métier. Il y a également Jean Hatzfeld, grand personnage, journaliste spécialiste du Rwanda, qui raconte sa démarche. Edgar Morin aussi, que vous avez interviewé. Et c'est ça qui va, donc, ces dialogues, ces monologues aussi, peut-être, des journalistes qui racontent leur méthode. C'est ça qui permet donc de découvrir cet univers de l'interview.
Oui, parce que de la même manière que Platon posait cette question, qui gardera les gardiens, mais qui questionnera les questionneurs? Qui interrogera les intervieweurs? Je pense que c'était très intéressant pour moi de faire rencontrer Florence Obna, Jean Hatzfeld notamment, à Judith et Nicolas. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'était important que les comédiens voient, se rendent compte en parlant. Précisément. Et eux-mêmes, en étant dans une situation d'intervieweur, puisqu'ils questionnaient d'une certaine façon, ils questionnaient en fait ces intervieweurs, qu'ils se rendent compte de ce que c'était que d'interroger, et surtout qu'ils comprennent avec des récits, parce que c'est beaucoup d'histoires en fait, tout ça, ce que c'était que de questionner des gens. Et moi, ce qui m'intéressait encore plus par rapport au métier que je fais, puisque aujourd'hui, le métier que je fais consiste notamment à faire des interviews, pas seulement. Mais disons que j'interviewe des intellectuels, des universitaires, des chercheurs. Là, ce qui m'intéressait, c'était aussi, et beaucoup, ceux qui faisaient parler soit les anonymes, ou soit ceux qui faisaient parler des gens dans des situations de guerre, des situations de conflit, voire même après un génocide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour poser des questions? Comment on fait aussi pour faire parler parfois le silence? Puisque, Jean Hatzfeld, donc, raconte, lui, que, pour faire parler le silence du génocide rwandais, celui des survivants et des rescapés du génocide, il a fallu qu'il arrête d'une certaine façon d'être journaliste parce qu'à un moment donné, il s'apercevait que ces gens-là n'avaient plus de mots, n'avaient plus de voix et qu'il fallait prendre du temps. Donc il a pris beaucoup de temps, là, pour le coup. Un entretien, en général, qui fonctionne, c'est surtout un entretien qui a duré. C'est pour ça que moi, j'aime les entretiens fleuves, les entretiens qui débordent du cadre dans tous les sens du terme. Mais là, il y reste pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, effectivement, il a questionné,
pour essayer de comprendre plusieurs livres.
Comment on bascule du côté du massacreur, ou comment on résiste, et qu'est-ce qui se passe, en fait, quelle est l'histoire de l'âme, en fait, de ces gens-là. Et du coup, cette réflexion, enfin, ces paroles d'intervieweur nous racontent beaucoup de choses sur l'époque que nous vivons. C'est-à-dire que, et notamment en expliquant quelque chose de tout simple, de très simple, d'évident, mais qui, à force d'évidence, n'est plus questionné, c'est que les interviewés, en particulier ceux qui sont anonymes, c'est d'abord ceux qui veulent parler. Donc l'interview est déjà un filtre énorme. Ce qui est beaucoup plus intéressant parfois, pas toujours, parce que ceux qui savent parler parlent très bien et c'est tant mieux, mais c'est de faire parler ceux qui sont plus timides, ceux qui ont pourtant beaucoup de choses à dire, qui n'en pensent pas moins, comme on dit. Et faire parler cela, c'est un travail. C'est un travail d'approche, d'empathie, d'écoute. Et voilà, et l'interview a... Et pour moi, une sorte d'art, au sens, non pas un nouveau, un art à faire partie des beaux-arts, mais c'est une technique, un art qui est proche de celui de la, presque de la danse. Il s'agit de conduire, en fait. On dit d'ailleurs conduire un entretien. Mais c'est quand même, me semble-t-il, un art de l'écoute.
RFI.
Petite pause dans l'atelier, nous revenons dans un instant. Restez avec nous.
Atelier des médias, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous parlons théâtre cette semaine grâce à la pièce mise en scène par notre invité, le journaliste d'idées Nicolas Truong. Cette pièce s'intitule L'interview et c'est une exploration de l'entretien journalistique à travers en particulier l'expérience de plusieurs plumes de la presse française. Une expérience recueillie par notre invité mais aussi par ses acteurs Nicolas Bouchaud et Judith Henry. Ensemble, ils ont notamment interviewé Jean Hatzfeld ou Florence Aubenas.
L'atelier des médias.
Il y a ce truc, les gens, qui est une espèce de phrase qu'on répète en boucle. On va faire les gens, on va interviewer les gens, qu'est-ce que les gens pensent? Bah, ce les gens, ça n'existe pas. Les gens que tu vois au journal, y compris un peu en presse écrite, ne sont pas les gens. C'est les gens capables de répondre à une interview. Oui, c'est parmi les gens qui savent répondre aux questions. L'interview, c'est un filtre énorme, parce que soit les gens, ils s'éliminent d'eux-mêmes, soit le journaliste, il n'a pas envie de perdre son temps.
Pour Florence Aubenas, par exemple, on l'a invitée à dîner, c'était chez moi, et on a suivi ce que nous avait dit Edgar Morin, que Nicolas Truong avait invité chez lui, autour d'un bon repas aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fait un bon repas, avec des bons vins, pour favoriser la convivialité, la commensalité, comme dit Edgar Morin, pour que la parole se délivre dans cet espace-là de convivial. Alors, on n'a pas tout fait comme ça, parce qu'il y en a d'autres qu'on a fait d'entretien qu'on n'a pas mis dans le spectacle. Hein. Alors des fois, on rejoignait les gens au café. Jean, par exemple, Hatzfeld, c'était une après-midi, c'était assez sérieux, il a parlé 3 heures d'une traite. Et quand on a retranscrit son entretien à Jean Hatzfeld, on a coupé évidemment parce que ça aurait été trop long pour le spectacle, mais il n'y avait rien à retoucher. Il y a des gens comme Jean Hatzfeld, mais comme Florence Aubenas aussi, et comme était Serge Danet, qui en même temps qu'ils vous parlent, ont cette faculté incroyable de mettre en scène leurs paroles. C'est-à-dire que quand on l'a retranscrit sur le papier, eh bien tout de suite, c'est un texte qui agit. Ça, c'est très étonnant.
C'est joli parce qu'il est venu voir le spectacle et il a dit que, en fait, il dit quand on s'est vu, j'avais envie de parler. Et ça m'a fait du bien. Enfin, j'avais des choses à raconter. Vous avez eu de la chance parce que c'est tombé à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais besoin de raconter ce que je fais. Donc, c'est marrant.
Donc, je décide de m'y prendre autrement. J'arrête le journalisme. J'abandonne le salaire et j'y retourne et je pose mes fesses dans un village, j'y reste pendant 15 ans et je travaille pendant 15 ans avec les mêmes personnes. Donc là, c'est plus l'histoire qui m'intéresse, c'est comment cette histoire a transformé leur vie. Et là, c'est un peu différent, c'est un peu l'histoire de leur âme, hein, pour employer les bons mots. Et là, surtout, c'est des questions. Tout ça, c'est des questions. Comment ont-ils entendu parler des vaches dans leur enfance? À l'école? Mais j'ai tout ça dans la tête. Tout ça, c'est des questions. La trahison de la vie. Il a été trahi par ses voisins. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? En quoi se sent-il trahi? Est-ce qu'il a perdu quelque chose en plus? Est-ce que... Et tout ça, de manière à pouvoir toujours réagir dans la discussion, dans la conversation, à tout ce qui va se dire et se passer, de manière à être toujours au diapason. Parce que j'ai affaire à des personnes un peu particulières. Soit ils ont tué, soit ils ont survécu. Et il faut toujours d'abord que je les assure qu'ils peuvent être crus, que c'est intéressant, que j'y prête attention, que je sais de quoi ils parlent. Voilà, j'ai 14 personnes rescapées, 10 tueurs maintenant, 10 jeunes, et ça fait 15 ans que je suis avec eux.
De quoi se souvient-il le mieux? De quoi se souvient-il le moins? Y a-t-il des endroits où il peut exprimer ses vrais sentiments? Dire sa colère, sa tristesse, sa nostalgie, son désarroi? Est-ce qu'il y a des souvenirs qu'on oublie plus ou moins que d'autres? Est-ce qu'il y a des souvenirs trop pénibles pour pouvoir rester dans la mémoire? Qu'est-ce qui ne peut être raconté? Il n'y a aucune photo, film de ces tueries. Pourquoi?
On écrit une pièce et en plus, c'est pas une pièce dans le sens classique du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une pièce où il y aurait des situations de jeu, où il y aurait une histoire qui vous serait racontée. Non, 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 non. C'est du matériau qui provient d'une parole réelle. Et voilà. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en scène. Et c'est colossal, en fait. Même si ça a l'air, et ça c'est plutôt bien, je crois, d'après ce que les gens nous disent, assez fluide et assez simple aujourd'hui. Voilà. Mais on passe par des espèces de nœuds dont on n'imagine pas pouvoir les dénouer un jour.
C'était Nicolas Bouchaud, Judith Henry, donc acteur et je sais plus quel terme il faut utiliser.
Oh, c'est le
co-concepteur
terme,
de
oui, c'est ça, le terme
pièce.
Est collaborateur artistique, mais comme Nicolas Bouchaud l'a bien résumé, on a fait ce spectacle ensemble. Enfin, c'est une idée qui vient de moi. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est précisément que ça soit le contraire du journalisme, d'une certaine façon. Ou en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que le journalisme soit quelque chose qui relève du théâtre aussi. C'est-à-dire qu'on soit un petit peu surpris. Moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus au théâtre, comme dans le journalisme, quand on sait déjà à peu près ce qu'on va raconter, et on va sur le terrain chercher la confirmation de ses propres paroles. Eh bien, au théâtre, c'est un peu pareil, c'est-à-dire d'avoir un peu pour moi, en tout cas, faire du théâtre, écrire un texte, faire un texte, et dire, voilà, ça va être comme ça, ça va se passer comme ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est comment précisément on peut produire les choses ensemble. Et mon travail a consisté à aussi, comment dire, choisir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, ou voir ce qui marchait, ce qui marche pas.
Faire du montage,
réécrire beaucoup avec le dramaturge qui a beaucoup compté, Thomas Pontdevie, réécrire, reprendre, réagencer, etc. Et du coup, ça, c'est vraiment très important parce que mettre en scène ce type de parole, voilà, c'est à la fois, j'espère, très fluide, comme le disait Nicolas, pour les spectateurs. Mais effectivement, c'est une véritable question puisque c'est, si vous voulez, il y a un récit sans histoire, quoi. Ou il y a une histoire sans récit. On raconte quelque chose, mais il n'y a pas tel ou tel personnage, même si Nicolas et Judith jouent tous les personnages, ils jouent à la fois Raymond de Pardon,
on a entendu Jean Hatzfeld, Florence Obna, c'est Jean Hatzfeld dans l'extrait.
Florence Obna, ils jouent tous les personnages, mais en même temps, il n'y a pas, si vous voulez, d'intrigue comme il y a dans une pièce de Shakespeare. Toute la question en fait de la mise en scène consiste à mettre de la théâtralité là-dedans. En fait, c'est ça l'enjeu. Et pour rebondir sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, que vous disiez, je crois qu'effectivement, et c'est Régis Debray qui dit ça dans l'entretien qu'on a fait avec lui, qui dit finalement peut-être le sommet de l'interview, ce serait de réaliser les conditions de possibilité d'un monologue. C'est-à-dire quelqu'un qui, n'aurait besoin qu'une seule question, ce qui déclenche. Comme ça a été le cas avec Régis Debray et Serge Danet, il a posé que quelques questions et Serge Danet s'est mis à parler comme de raconter sa vie, comme une interview testament. Eh bien, peut-être qu'effectivement, un des sommets de l'interview pourrait consister à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des monologues dans la pièce, et à la fois parce qu'on voulait plonger dans un univers, celui de Florence Obna, puis après celui de Jean Hatzfeld, mais on voulait aussi montrer, il me semble, que le monologue peut-être la quintessence, curieusement, l'interview. C'est pas forcément le ping-pong, la question-réponse, mais finalement, offrir les possibilités à quelqu'un de parler. Et là, Jean Hatzfeld, c'est très frappant, parce qu'en effet, il avait envie de parler, presque besoin de parler, parce que lui n'avait jamais encore vraiment parlé de sa façon de faire advenir la parole. Et il était du coup intarissable, et c'est ça qui était passionnant. Et on a eu l'impression, en tout cas moi en tant que journaliste, et donc aussi en tant qu'homme de théâtre, que quelque chose de rare se disait. Alors il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel, il n'y a pas de révélation, on n'a pas de scoop sur la campagne présidentielle à livrer dans ce spectacle, mais quelque chose comme un trésor était là un peu révélé au public.
Au fond, l'interview, c'est le côté, on a plutôt, je pense, dans le spectacle, finalement magnifier cet exercice-là. En fait, il est quand même mis à un endroit qui n'est pas celui du tout venant médiatico-culturel. Il est quand même porté à un espèce de degré comme ça, où tout d'un coup, ce qui devient important, c'est la question. Voilà. C'est quelle question va déclencher de la parole, c'est comment on s'adresse à l'autre, etc. Parce qu'à un moment, on se disait, pendant les répétitions, finalement, on va faire un spectacle, c'est sur la question, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment, on fait une séquence avec que des questions qui proviennent d'un livre d'un auteur qui s'appelle Max Frisch. Et alors, ça, c'est absolument extraordinaire. De toute façon, la question au théâtre, c'est toujours du jeu. Dès qu'on pose une question, c'est du jeu. Il y a du jeu qui arrive. Parce que c'est quelque chose qui est renvoyé au spectateur. Et les questions de Max Frisch, elles ont cette particularité qu'on est obligé. Elles sont tellement intelligentes, tellement drôles, et en même temps tellement complexes, qu'on est obligé, dans sa tête, d'y répondre, ou de chercher à y répondre. C'est obligatoire. En fait, ça met en état de réfléchir, ou de rêver. Et en fait, c'est ça un bon interview aussi. C'est comment l'intervieweur met l'interviewé en état de rêver, de délirer, comme dit Morin, dans un état second. Et sinon, dans le genre question qu'on pose dans le spectacle, il y en a une de Max Frisch qui est très belle, hein, qui est « Est-ce que vous avez de l'humour quand vous êtes seul ?» Est-ce que vous avez de l'humour quand vous êtes seul ?
Une fanfare de 400 sexagénaires joue dans ma tête et je regrette que vous ne soyez pas avec nous. Mais sûrement vous ne seriez pas le bienvenu. Mais sûrement vous ne seriez pas le bienvenu. Mais sûrement vous ne seriez pas le bienvenu.
Dans l'émission, nous recevons Nicolas Truong. Est-ce que vous avez une question pour Nicolas Truong ?
Moi, la question que j'aurais lui poser, c'est en fait, finalement, oui, il est journaliste et il a fait un spectacle qui s'appelle avec nous, qui s'appelle Interview. Donc, je sais pas, c'est un peu comme si un boulanger faisait une baguette qu'il appelait boulanger. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment le truc. C'est un peu comme si nous, on faisait un spectacle sur les acteurs. Ou, enfin, je sais pas, il y a un truc un peu ultra interne là. Je sais pas si on en a jamais parlé. Je sais pas ce qu'il en pense.
Alors, Nicolas Truong.
Ben oui, c'est, je crois que l'interview, un intervieweur au long cours, je pense, dessine dans la façon qu'il a d'interviewer, dans le choix de ses interviewés, un autoportrait. Donc en effet, il n'y a non pas aucun même élément biographique dans ce spectacle, ou autobiographique, en tout cas me concernant.
Mais il y a des clins d'œil. Parce qu'il y a, ah. Il y a des clins d'œil. Il y a un entretien qui a été publié dans les pages JD du Monde en 1980. C'est le philosophe Michel Foucault qui faisait un entretien anonyme. Donc je me suis dit, ça au moins, c'est un clin d'œil à ce que vous faites aujourd'hui.
C'est un clin d'œil, en effet, avec mon homologue, enfin la personne qui m'a précédé,
de la campagne.
Christian de la Campagne, qui demande en effet à Michel Foucault, alors au sommet de sa célébrité, un entretien. Et Michel Foucault lui dit d'accord, mais à une seule condition, c'est que cet entretien soit anonyme. Et donc l'entretien paraît, ce qui est à mon avis à mettre au crédit de la direction de la rédaction de l'époque, du Monde, qui a accepté qu'un entretien donc avec un philosophe masqué, puisque c'est comme ça qu'il est paru, puisse être publié par le Monde. Et la raison en est la suivante, elle me touche de près dans mon métier, c'est-à-dire que Michel Foucault dit dans cette interview qui ne laisse passer aucun concept évidemment foucauldien comme biopouvoir ou
mais t'es épuré pour qu'on ne sache pas vraiment pas qui
voilà,
c'était.
Voilà, pour qu'on ne sache pas tout de suite en tout cas, puisque je crois que le secret a été à peu près bien tenu jusqu'à sa mort, par nostalgie du temps où on entendait ce qu'il avait à dire. Et on se disait pas, bon, j'aime Michel Foucault, donc c'est forcément extraordinaire. Ou j'aime pas Michel Foucault, donc voilà, c'est tout à fait détestable, c'est un affreux, ceci, cela. Et donc, je pense qu'effectivement, d'où l'idée de Michel Foucault d'organiser, même de proposer une année sans nom d'auteur, où finalement on lirait des livres sans savoir qui les écrit.
Je proposerais un jeu, celui de l'année sans nom. Pendant un an, on éditerait des livres sans nom d'auteur. Les critiques devraient se débrouiller avec une production entièrement anonyme, mais j'y songe, peut-être n'aurait-il rien à dire. Tous les auteurs attendraient l'année suivante pour publier leur livre.
C'est ça. Et donc, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est vrai que c'est cette façon de rencontrer les gens, de découvrir des mondes qui, moi, m'a conduit, en fait, au journalisme. Et je suis toujours encore, maintenant, à la recherche d'aventures intellectuelles, puisque c'est le cas des pages JD Débat aujourd'hui, mais de rencontres. Je pense que il est encore possible. Je pense que le journalisme, c'est une façon de dire voilà, que c'est encore possible. Bon, ça l'a été pour moi, très profondément. Je pense que c'est encore possible. Le journalisme peut encore nous emmener vers d'autres mondes. Et même par une technique ou un art aussi simple qu'est celui de l'entretien. On peut aller ailleurs, on peut rêver un peu. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu faire part de ce rêve ou de cette quête, plutôt, au théâtre.
Quand on m'a parlé, je l'ai mentionné au début de l'émission, quand on m'a parlé de ce spectacle, la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il y a des entretiens radio? Est-ce qu'il y a un intervieweur radio? Et j'ai été très déçu quand on m'a dit non, il y a donc, on m'a cité les personnes et j'ai réalisé qu'il n'y avait probablement pas. Alors il y a des extraits de radio dans le spectacle, mais il n'y a pas d'intervieweur radio. J'étais très déçu et en même temps, moi, ça ne manque peut-être pas. Et en préparant, j'ai réfléchi, je me suis dit notre contribution à nous, Atelier des médias, à la réflexion autour de l'interview et de ce spectacle, ça pourrait être de vous faire entendre un entretien radio où l'intervieweur s'efface aussi, parce qu'on le fait beaucoup à la radio, on pose, repose des questions qu'on sait qu'on va effacer et on écoute la réponse pour savoir si on va pouvoir monter la réponse sans montrer qu'on a posé de questions. Et on a choisi un extrait d'une œuvre de Yann Parent-Ohen, qui est donc un des monuments, peut-être le monument de la radio française, très peu connu hein, dans le monde, même très peu connu en France, donc qui a produit très peu d'émissions, qui était ingénieur du son à l'origine, et il a fait une œuvre autour d'un personnage de la Maison de la Radio qu'on connaissait tous quand on travaillait à la Maison de la Radio il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. C'était une dame qui s'appelait Lulu, on ne le savait même pas d'ailleurs qu'elle s'appelait Lulu. Elle ramassait les cendriers, ça existait à l'époque, les cendriers, dans la cafétéria du 10e étage de la Maison de la Radio.
C'est vous qui avez fumé là déjà? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre?
C'est moi.
C'est vous, parce que il me semble bien d'avoir laissé le cendrier propre.
Oui, mais c'est moi, j'ai fumé.
Ah ben c'est tout à fait normal. Tenez, mettez-le vers vous.
Lulu.
Je suis née à Vichy. À Vichy. L'hôpital de Vichy. Après, j'ai grandi à Vichy. Mes parents, ils habitent Ris, dans l'Auvergne. C'est tout à côté de Châteldon. Mon père est de Châteldon. C'est la montagne, quoi. Moi, j'étais dans une ferme avec mes parents. Mon père était métayer. Il n'avait pas l'argent pour avoir la gérance du travail. Ça s'appelait métayer. C'est un bail. Quand on rentre dans cette ferme-là, on trouve tout. Les vaches, les poules, les veaux, enfin tout. Mais quand on s'en va, on est obligé de laisser tout. Ça fait mal au cœur, hein. On est resté 3 ans, mais on était bien. J'avais, attendez voir. Eh bien, c'était pendant la guerre. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans.
C'était un extrait de Lulu, de Yann Parent-Ohen, qui ferme la fenêtre pendant l'entretien. C'est un tailleur de son, on dit, de Yann Parent-Ohen, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Et l'autre raison pour laquelle j'ai choisi cet entretien, c'est qu'il y a beaucoup de nostalgie dedans, nostalgie des années, donc peut-être de son enfance à Lulu, les années 40-50. Et il y a beaucoup de nostalgie dans votre spectacle, c'est-à-dire que presque toutes les références sont avant 1990, des émissions emblématiques des années 80. On n'a pas pu entendre, mais on avait préparé un extrait de Bernard Pivot, l'émission Apostrophe, évidemment un film sur les années 60. Et en y réfléchissant, il y a très peu de références à l'univers médiatique quotidien d'aujourd'hui. Internet n'existe presque pas dans ce spectacle. Je ne sais même pas s'il y a une seule référence ou une seule allusion au réseau des réseaux.
Alors, deux choses sur la radio. Là, pour le coup, je vous donnerai totalement raison parce que, et c'est pas parce que je suis à la radio, mais il me semble que, oui, l'interview va très bien à la radio. Parce que là, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait au début, il y a à la fois l'intimité, le contact complet enveloppant d'une certaine façon, et la distance qu'on n'a pas évidemment là, avec les images qui peuvent, il y a des interviews filmées absolument sublimes, mais qui effectivement n'ont pas la même fonction. Et puis l'interview de la presse écrite, elle est souvent en fait réécrite, reprise. C'est encore autre chose. C'est un travail, parfois c'est une co-construction, si je puis dire.
Ça peut être un travail d'écrivain. On peut être un très mauvais intervieweur, mais un très bon narrateur d'interview derrière.
C'est ça, parce qu'effectivement on peut mener une interview, puis après raconter l'interview et faire des propos rapportés. On peut aussi faire une interview comme un écrivain. C'est-à-dire que questionner un intellectuel et au fond réécrire l'interview avec la langue elle-même de l'intellectuel, parce que quand Roland Barthes parle à quelqu'un, il parle comme Roland, pas forcément toujours comme Barthes, il parle toujours comme un professionnel, et donc certains effectivement on peut réécrire la langue, presque on peut oraliser quelque part la langue d'un écrivain ou d'un intellectuel quand on réécrit une interview. Donc la radio pour moi effectivement est quelque chose de très important, notamment c'est un média qui a accompagné mes jours et plus encore mes nuits, parce qu'en fait c'est vrai que c'est d'autant qu'on peut réécouter aujourd'hui facilement, podcaster, etc. Et que effectivement il y avait des émissions la nuit qui donnaient envie d'aller plus loin. Et on a essayé par exemple de travailler à partir du texte L'Intervieweur de Alain Weinstein, qui faisait du jour au lendemain, donc sur France Culture, et qui a mené...
Surpris par la nuit aussi.
C'est ça, et surpris par la nuit, et qui a noté, consigné ces petites notes, un peu d'intervieweur. Et notamment, il y a une très belle petite note, c'est-à-dire que l'émission, donc il fait une heure, je sais pas quoi, 50 minutes, on va dire, je crois, d'émission. Et puis, donc il raconte, c'est la personne qui a le casque là, sur les oreilles, comme vous, et qui après, mais qui est là pour le coup, est la personne interviewée, l'écrivain ou l'écrivaine, je sais pas, et qui enlève son casque, qui utilise la lumière, les lumières s'éteignent, et dit alors on peut parler maintenant. Comme si du coup elle n'avait été que dans la bella figura ou dans ce qu'elle voulait donner publiquement d'elle-même, et que la vraie parole, c'est juste amusant, c'est juste un bon mot comme ça, est-ce qu'on peut parler, c'est-à-dire évidemment est-ce qu'on peut se dire autre chose et passer à autre chose, bref, est-ce que ça n'enregistre plus, mais c'est plus que cela, ça veut dire qu'effectivement, elle était peut-être dans une forme de vernis, de langage,
de représentation,
de discours qu'elle avait préparé, et que là, peut-être, il faudrait enfin se mettre à parler. Et ça fait le lien avec votre question sur la nostalgie, parce que j'entends bien que les références sont, certains pourraient dire, et ils n'auraient pas tort, d'un certain point de vue, du point de vue des références, que c'est un spectacle vintage. Parce que Chronique d'un été, 1961, parce que tout
Bernard
ça...
Bernard Pivot et Marguerite Duras, 1984.
Bernard Pivot, Marguerite Duras. Mais en fait, je dirais, premièrement, non, parce que les auteurs qui sont là sont bien vivants et continuent leur travail, mais surtout pour nous, en fait, l'idée c'était faire un retour, parce que nostalgie au sens étymologique, c'est la nostalgie du retour. En fait, c'est pas la nostalgie du retour que nous avons, c'est simplement l'envie de retrouver ça. Et c'est au contraire pour donner envie à tous ceux qui font ce métier et à tous ceux qui aiment encore un peu le journalisme et ce qu'il peut amener, de faire ce type d'interview-là, parce que c'est possible. Et en effet, peut-être que ce n'est pas présent dans le spectacle, mais on espère que c'est présent dans la tête des gens. C'est-à-dire que si, par exemple, on n'est pas allé faire, comme disait Judith Henry tout à l'heure, aller interviewer la boulangère, le boulanger, c'est parce qu'il y a aujourd'hui énormément d'émissions de radio, notamment, de télévision aussi, qui donnent la parole aux gens, et de façon très bien, qui font des reportages magnifiques, de paroles vives, de paroles brutes, de paroles un peu vérité, voilà, documentaires extraordinaires. Je pense qu'au contraire, ça s'est même répandu par rapport à 1960, Jean Rouch et Edgar Morin, c'est une exception. Aujourd'hui, ça s'est plutôt répandu. Et finalement, c'est pour ça que moi, je leur ai dit à un moment, enfin, je me suis dit, j'ai dit à l'équipe, je pense que c'est plus original d'avoir cette parole-là plutôt que vous alliez vous-même recueillir, faire Chronique d'un été aujourd'hui. Je trouve que, précisément, c'est une invitation à sortir peut-être de ce qu'on entend, de ce qui semble dominant, de l'interview minute, de la parole où rien ne se dit. Quoique même dans une interview, dans des chaînes d'information continue à la télévision, de temps en temps, il peut se passer malgré tout des petites choses, des petits écarts, des petits débordements. C'est plutôt une invitation pour précisément aller chercher cette parole-là, retrouver de l'échange, du dialogue, du commun, que c'est possible, quoi. Et qu'au-delà même de l'interview, c'est encore possible de se parler. Mais le problème aujourd'hui, c'est comme le dit un grand philosophe, Gilles Deleuze, c'est que, au fond, aujourd'hui, il y a presque trop de paroles. Ce qu'il faudrait, c'est ménager des espaces de solitude, d'évacuels, dit-il, de solitude et de silence, à partir desquels on aurait enfin quelque chose à dire qui mériterait un peu d'être dit. Je dirais qu'à la limite, il y a trop de paroles aujourd'hui. Il faudrait presque aller chercher une forme de silence, de rareté, mais que ça soit aussi bien avec les hommes politiques, les intellectuels que les anonymes, pour créer quelque chose, créer un dispositif, créer voilà, les conditions pour que de la parole encore advienne. Et je pense qu'on n'en a jamais eu autant besoin, mais ce n'est pas un spectacle nostalgique au sens qui consisterait à dire « Eh bien, aujourd'hui, dans les médias, il n'y a plus que le mainstream, il n'y a plus que l'interview minute, le truc qui nivelle, où finalement rien ne se dit, où c'est la petite phrase, où même les hommes politiques n'ont plus envie d'aller parce qu'il ne se dit plus grand-chose. » Non, il y a plein d'autres choses à faire qui s'inventent, et c'est possible. C'est possible. On a, je veux dire, et c'est possible avec presque rien. C'est comme le théâtre, quoi. Il suffit de délimiter un espace, mettre deux acteurs. Voilà. On joue, quelque chose se fait. Une interview, c'est pareil. Vous rencontrez quelqu'un, et tout peut arriver, ou rien.
Merci Nicolas Truong. L'interview, le spectacle, c'était au Théâtre du Rond-Point. Nous l'avons vu au Théâtre du Rond-Point. J'en profite d'ailleurs pour remercier Hélène Ducharne, l'attachée de presse du théâtre, qui nous a beaucoup aidés. Le spectacle est maintenant en tournée et il revient en région parisienne, pour ceux qui nous, celles et ceux qui nous écoutent à Paris, fin mai au Théâtre du Montfort. C'est ça ?
C'est ça, ce sera du 29 mai au 17 juin au Montfort Théâtre. Et en attendant, il est en tournée dès le 6 avril, à Grenoble notamment.
Et j'ai oublié de mentionner et de remercier ma co-intervieweuse Constance Léon qui a interrogé les acteurs du spectacle. On a entendu sa voix à plusieurs moments dans les extraits que Simon a préparés. Merci, à bientôt.
Merci à vous. On peut parler ?
Ouais, on peut. Tu peux continuer à enregistrer.
Est-ce qu'on peut parler maintenant ?